Ce soir, nous allons donc méditer ensemble et le titre de notre prédication, notre méditation sera « Lorsqu'une porte se ferme ». Eh oui, vous attendiez à ce que je dise « Lorsqu'une porte s'ouvre ». Mais non, c'est « Lorsqu'une porte se ferme ». Mes bien-aimés, la tristesse, l'incompréhension et parfois l'amertume remplissent le cœur, notre cœur, et c'est souvent notre lot. Brusquement, le chemin devant nous se barre de nombreux obstacles et qui paraissent parfois insurmontables. Bien des questions alors se bousculent dans notre esprit et le diable, le malin, ne manque pas d'intervenir pour y jeter les semences du doute, semences de la suspicion, semences du découragement, semences de la rancœur et semences de la révolte. C'est alors l'heure de l'épreuve de notre foi. Jacques, d'ailleurs, au chapitre 1er et au verset 3, nous dit « La mise à l'épreuve de notre foi » produit l'endurance. Amen. Alors nous allons faire une petite lecture dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 6 et 7. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 6 et 7. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Et il apparaîtra, c'est certain. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, si une porte par laquelle on espérait passer se referme juste devant nous, ne n'oublions pas que nous ne connaissons pas le chemin à l'avance. Mais le Seigneur Jésus, lui, le connaît bien, le chemin à l'avance. Et qui mieux que lui, dont l'amour à notre égard est si merveilleux, peut et veut nous bénir par tout le chemin où nous passons. Le psaume 143 et le verset 8 nous dit « Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. » Pas le mien, mais le chemin que le Seigneur veut que nous marchions. Il arrive également que la porte qui se referme est une grâce du Seigneur, eh oui, qui nous arrête, je dirais, dans notre sentier d'égarement, ce moment de s'écarter, de se dérouter du sentier tracé par notre Seigneur, je dirais même par ce moment de folie, entre guillemets, qui s'empare de nous. Après avoir agi de notre propre volonté insoumise et avoir été guidé par nos propres intérêts, le Seigneur nous ramène donc comme des brebis égarées dans sa proximité immédiate. Car le Seigneur est le bon berger, comme vous le savez. La Bible, la Sainte Parole, ne nous dit pas que nous sommes des bâtards. C'est-à-dire, c'est quoi des bâtards? Ce sont des enfants nés de parents, non légitimement mariés, de parents donc différents. C'est la définition, disons, du dictionnaire. Nous ne sommes donc pas des bâtards, mais nous sommes donc de véritables enfants de Dieu. Et comme tels, nous bénéficions donc des soins de notre Dieu, de son Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous allons faire une lecture dans Hébreux, chapitre 12, versets 5 et 8. Et je me permets de vous le lire sur la version Darby, qui est l'original de l'hébreu. Là, ça ne sera sûrement pas pareil, mais le texte est tout de même le même. Hébreux, donc, chapitre 12, versets 5 et 8. « Mon fils, ma fille, ne méprise pas la discipline du Seigneur et ne perds pas courage quand tu es repris par lui. Car celui que le Seigneur aime, il le discipline. » Ah, là, c'est plus fort, il est dit « il le fouette ». Là, ce doit être « il le corrige ». Tout fils qu'il agrée. Vous endurez des peines ou des souffrances, selon la traduction, comme discipline. Dieu agit envers vous comme envers des fils, car quel est le fils que le Père ne corrige pas, c'est-à-dire ne discipline pas. Mais si vous êtes sans la correction, c'est-à-dire sans la discipline à laquelle tous, il est bien dit tous, participe, alors vous êtes des bâtards, nous dit la version Darby, c'est-à-dire vous êtes des enfants illégitimes et non pas des fils. C'est dur, hein? Proverbe, cherchez pas, chapitre 16, verset 2, je l'ai noté, version Semeur. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie, c'est l'Éternel qui estime, c'est l'Éternel qui fait cas de vos motivations. Parfois, il est vrai, nous mettons nos désirs en lieu et en place de la direction divine. Et dans certains cas même, nous pensons même qu'il s'agit bien de la volonté de Dieu à notre égard. C'est facile, cherchant dans la Bible des versets qui nous justifient, qui justifie notre propre résolution, notre propre décision, alors nous nous engageons dans un chemin où il faudra toute la grâce de Dieu pour nous arrêter. De notre côté, mes bien-aimés, nous pouvons avoir été fidèles et dépendants du Seigneur et de se retrouver devant une porte qui nous claque au nez. Nous avons bien cherché, pourtant, la direction. Et nous avons marché dans le sens qui s'ouvrait à nous. Et voilà que nous sommes arrêtés soudainement. Deux Chroniques, cherchez pas, chapitre 11, verset 4, nous dit, version Semeur, « Car c'est moi, c'est-à-dire l'Éternel, qui ai produit ce qui s'est passé. » C'est l'Éternel et ce n'est pas nous. Et là, il nous est parlé dans ce passage de l'intervention d'un prophète empêchant la guerre entre Jéroboam, entre Juda et Israël, c'est-à-dire entre compatriotes. Nous y voyons donc, mes bien-aimés, la souveraineté de Dieu et l'obéissance à Dieu. Nous sommes appelés à l'obéissance. Lamentation, cherchez pas, chapitre 3, verset 37. Je vous le lis toujours sur la version Semeur. Qui donc n'a qu'à parler pour qu'une chose soit quand l'Éternel ne l'a pas ordonné? Mais bien aimé, si la déception est grande, ça vous était arrivé d'avoir une grande déception dans votre vie, même voire très grande, il faut alors se tourner vers le Seigneur pour se confier en lui et attendre ses indications, c'est-à-dire attendre ses directions pour la suite du chemin à suivre et à parcourir. Même dans ce moment-là, il faut donc le louer, il faut donc lui rendre grâce malgré notre tristesse, notre accablement, notre chagrin et notre affliction. Cela n'est pas toujours facile. Et cela, effectivement, n'est pas toujours évident. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, je vous le lis. En toutes choses, Retenez bien le mot. Ça veut tout dire. En toute chose. Que ce soit dans notre direction ou contre notre propre direction. Rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à votre égard. Et la version sommaire vous dit, remerciez Dieu en toutes circonstances avec reconnaissance et action de grâce. Est-ce que je suis capable de remercier Dieu en toutes circonstances? C'est là la pierre de touche de notre relation avec le Seigneur Jésus. Est-ce que je l'aime et je le sers à cause du bien qu'il m'a fait et surtout à cause de cela? Ou est-ce que je l'aime parce qu'il est grand? Est-ce que je l'aime parce qu'il est magnifique? Le psaume d'ailleurs 8, le verset 2, je l'ai relevé, nous dit « Que ton nom est magnifique sur toute la terre entière. » Est-ce qu'il est magnifique donc dans toute sa personne? Parce qu'il ne change jamais, notre Dieu. Il n'y a pas en lui ombre de changement. Il n'y a pas en lui ombre de variation. Parce qu'en lui, tout est amour. Parce qu'en lui, tout est beauté. Que son nom soit béni. Est-ce que je mets les dons avant le donateur? Point d'interrogation. Mes bien-aimés, vous la connaissez cette histoire et nous allons y revenir. Regardons un peu l'histoire de Joseph qui a vu bien des portes se fermer et des portes s'ouvrir dans sa vie. Vous le lirez chez vous dans Genèse, les chapitres 37 jusqu'au chapitre 50 compris, où nous est parlé des rêves de Joseph et la fin de vie de Joseph. La première porte qui s'est fermée brusquement devant lui est celle de la liberté. C'est la porte de ses privilèges. C'est la porte de l'amour des siens et particulièrement de l'amour de son père, de son frère cadet, de Jacob, d'Éphraïm et de tous ses frères. Lui, le fils d'Israël, prince de Dieu, se retrouva vendu par ses propres frères, à des marchands qui le monnayèrent, comme vous le savez, en Égypte, comme un vulgaire esclave. Il y a de quoi se poser des questions. À quoi bon pouvaient servir les songes de puissance, les songes de primauté qu'il avait eus auparavant, alors qu'il voyait toute sa famille se prosterner devant sa personne? Vous l'avez dans Genèse chapitre 37, versets 5 à 7, je vous le lis. Les gerbes de sa famille se prosternaient devant sa gerbe dressée. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant Joseph. Nous pouvons alors imaginer sans peine les sentiments d'angoisse, d'incompréhension, de douleurs amères et la lutte intérieure qui fut sienne. Fini les gerbes à se prosterner, fini les 11 étoiles qui se prosternaient. Dans son malheur, tout de même, l'Éternel lui ouvrit une nouvelle porte et lui donna donc de trouver faveur auprès de son maître qui lui donna donc l'intendance de toute sa maison, c'est-à-dire la responsabilité de toute sa maison. C'est Monsieur Potiphar. C'était là, si vous voulez, une parole, j'oserais dire, de consolation, une parole de réconfort dans sa souffrance toujours présente d'être séparé de ce qui lui était cher. Il lui confia donc la gérance de tous ses biens. Mais voilà cette porte qui s'était ouverte, claque violemment de nouveau devant lui. L'injustice le frappe de nouveau et il se retrouve en prison pour avoir été fidèle à Dieu et pour avoir été aussi fidèle à son maître de servitude. Vous l'avez dans Genèse au chapitre 39. Madame Potiphar lui dit « Viens coucher chez moi ». Viens coucher avec moi. Elle avait donc une idée d'adultère avec Joseph. Mais Joseph n'a pas succombé à l'adultère, mais malheureusement, le mari, M. Potiphar, ne l'a pas cru et envoya donc Joseph en prison. Emprisonné, une nouvelle porte s'en trouve encore. Et l'Éternel était toujours avec lui, et il s'avança toujours, nous est-il dit, avec espoir, tout en prodiguant donc le bien autour de lui. Continuant son chemin en toute fidélité, cette porte sembla vraiment s'ouvrir quand l'occasion lui fut donnée d'apporter une bonne nouvelle de la part de Dieu à un serviteur proche du Pharaon. C'était l'Échanson. Rêve donc de l'Échanson qui se retrouva rétabli donc dans sa fonction puisqu'il avait trouvé la disgrâce du Pharaon. Et humainement donc, Joseph compta sur la reconnaissance et compta sur la gratitude de cet homme qui alla bientôt donc retrouver sa place à la cour du roi. Alors, en Échanson, c'est, disons, un officier qui sert à boire à une grande personne. Là, la grande personne, donc, c'était le Pharaon. Alors, dans Genèse, il nous est dit, je vous le lis, chapitre 40, verset 23, sur le canevas, « Mais le chef des Échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. » Nous voyons là l'égoïste et l'égoïsme même et la non-gratitude de la nature humaine. Nous connaissons malheureusement bien cela souvent. Et donc cette porte ne s'est pas ouverte comme il le souhaitait de toutes ses forces. Il a dû attendre encore deux longues années avant qu'une nouvelle porte s'ouvre. Et nous l'avons au chapitre 41 et au verset 1er, où il est parlé de l'interprétation par Joseph des rêves de Pharaon. Et quelle entrée, bien-aimé, des cachots de la prison à la tête de l'Égypte, comme intendant, comme ministre du grand Pharaon. Telle fut donc l'ascension de celui qui avait tant souffert. Et nous pouvons le lire dans Genèse, au chapitre 41, versets 40 à 41. Je vous le lis. Tu seras, parle de Joseph, le Pharaon, tu seras à la tête de mon royaume et tout mon peuple obéira à tes ordres. Moi-même, c'est-à-dire le Pharaon, je ne serai au-dessus de toi que par le trône. Ainsi, dit-il, je te mets à la tête de toute l'Égypte. Quelle élévation et quelle faveur royale. Luc au chapitre 14 et au verset 11 nous dit, en effet, celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Jacques au chapitre 4 au verset 6 dit, mais il donne une plus grande grâce. C'est pourquoi il dit, Dieu s'oppose, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Nous sommes appelés à l'abaissement donc de soi-même. Joseph a appris, mes bien-aimés, par les choses qu'il a souffertes. Et s'en remettre complètement à l'Éternel, à ne pas compter sur le secours qui vient de l'homme. Ces longues et difficiles années d'apprentissage lui ont tout simplement donné d'être approuvé par Dieu pour sa fidélité et d'être rendu humble pour occuper ce poste si élevé qu'il en aurait rendu orgueilleux plus d'un. Ce poste correspondait à peu près au poste de Premier ministre aujourd'hui dans un gouvernement européen. Joseph, donc, a appris par les choses qu'il a souffertes, je le répète, à s'en remettre complètement à Dieu. Je crois que c'est là un bel exemple pour nous. Quand nous devons passer par la souffrance, par l'épreuve, il faut s'en remettre à Dieu, et Dieu, lui, il nous donnera sa grâce, et il nous donnera sa propre récompense. Et bien aimé, nous voyons toute l'œuvre donc accomplie à Joseph, qu'il, malgré ses sentiments, je dirais intimes, a su attendre encore plus de 7 ans pour que la première porte qui s'était fermée bien des années auparavant, celle de ses relations familiales, puisse se rouvrir de nouveau. Il a attendu 7 ans dans les larmes et la reconnaissance envers Dieu. Je ne sais pas si nous avons attendu 7 ans, nous, afin qu'une porte s'ouvre. Je n'en sais rien, ou peut-être plus, mais chacun de nous, nous le savons. Genèse au chapitre 45, au verset 14, nous dit « Puis il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et tous deux pleurèrent de joie sur les épaules l'un de l'autre. » Tous deux pleurèrent de joie. Que le nom du Seigneur soit béni pour cette merveilleuse réconciliation. Écoutons Joseph à ce sujet. Genèse, chapitre 45, verset 5, plus verset 14 et verset 15. Je vous le lis. « Et maintenant, ne soyez pas attristés, c'est-à-dire ne vous tourmentez pas, et ne voyez pas d'un œil chagrin, c'est-à-dire ne vous accablez pas de remords, que vous m'ayez vendu comme esclave ici, car c'est pour la conservation de la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et il se jeta au cou de Benjamin, comme nous l'avons vu, son frère, et il pleura. Et Benjamin pleura sur son cou, et il le baisa, c'est-à-dire il embrassa tous ses frères et pleura sur eux. Et après cela, ses frères parlèrent, s'entretèrent donc avec lui. Nous voyons quoi là? Nous voyons l'amour fraternel. C'est important, l'amour fraternel dans l'église de Toulouse-Ouest. Nous voyons là le pardon. C'est important, le pardon dans l'église de Toulouse-Ouest. Nous voyons là la réconciliation. C'est important, la réconciliation dans l'église de Toulouse-Ouest. Ce qui doit être impératif parmi le peuple de Dieu. C'est-à-dire, mes bien-aimés, pas de rancœur, pas de vengeance, pas d'amertume, pas de représailles envers ses frères, envers ses sœurs en Christ, mais une reconnaissance envers l'Éternel qui a tout dirigé pour la conservation et le bien des siens. Quel exemple pour nous chrétiens! Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien, nous dit le psaume 34, verset 11. Joseph, donc, qui fut formé par Dieu lors de toutes ces années d'épreuves. Oui, il fut formé par Dieu, Joseph, et je suppose que nous aussi, nous avons été formés par Dieu quand nous sommes passés par des mois et des années d'épreuves. Il regarda au-delà de ses souffrances passées pour voir, y voir tout simplement la bonté de Dieu envers toute sa famille. Mes bien-aimés, nous devons regarder avec les yeux de la foi. Ah, il souffrit, certes, et nous aussi, nous passons également, comme Joseph, par la souffrance. Mais il a pu se réjouir au travers de toutes ces épreuves. Et nous aussi, comme Joseph, nous devons nous réjouir au travers de nos épreuves, de ce que Dieu est amené toutes choses à bonne fin pour les siens. Et pour lui-même, c'est-à-dire pour même chacun d'entre nous. Ses frères dans la chair, qui n'avaient pas passé par un tel chemin, qui ne connaissaient pas une telle relation avec l'Éternel, c'est-à-dire cette relation intime, cette relation étroite, cette relation personnelle que chaque chrétien doit avoir avec Dieu, doutèrent toujours du pardon de leurs frères et craignirent longtemps encore sa vengeance, car il savait trop bien, ce frère-là, ce qui était dans le cœur des hommes et dans leur propre cœur, c'est-à-dire un cœur tortueux avant tout. Il faudra le décès de Jacob, leur père, pour entendre ceci. Nous le lisons, Genèse chapitre 50, verset 19, à 21, Genèse chapitre 50, verset 19 à 21. Et Joseph leur dit, soyez sans crainte, ne craignez point, Car suis-je à la place de Dieu ? Vous, vous aviez pensé du mal contre moi. Dieu l'a pensé en bien pour faire comme il en est aujourd'hui, afin de conserver la vie à un grand peuple. Et maintenant, ne craignez rien. Soyez sans crainte, moi, je vous entretiendrai, c'est-à-dire je pourvoirai à vos besoins, vous et vos petits-enfants. Il les consola et parla à leur cœur. Amen. Je vous l'ai lu ça sur la version Darby. Nous voyons là des paroles d'encouragement. Nous voyons là des paroles d'amour. Nous voyons là des paroles de bonté. Nous voyons là des paroles de consolation. Mais moi aussi, je veux voir dans l'église de Toulouse-Ouest des paroles d'encouragement. Je veux voir dans cette église des paroles d'amour. Je veux voir dans cette église des paroles de bonté. Et je veux voir dans cette église des paroles de consolation. Et je dirais même mieux, de réconciliation. Amen. Nous continuons. Nous arrivons bientôt à la fin de ce message. Dans nos vies, dans vos vies, dans ma vie, il y a des portes qui se ferment et il y en a d'autres qui s'ouvrent dans les larmes. Et oui, dans la souffrance, même aussi dans la joie. Amen. Mais qu'en toute chose, nous puissions mettre notre confiance en Jésus-Christ. Je placerai ma confiance en lui. Nous était dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2 et au verset 13. Jésus-Christ qui connaît le chemin à l'avance, Jésus-Christ qui prie, et Jésus-Christ qui prie, qui intercède pour chacun de ses rachetés, et nous sommes, chacun d'entre nous, ses rachetés. En conclusion, nous prenons Philippiens, chapitre 4, versets 5 et versets 6 et 7. Je vous le lis, c'est la version Darby. Je me suis fait plaisir ce soir. Le Seigneur est proche. J'arrête là, on va pas plus loin. S'il est proche, est-ce qu'on aura le temps de rentrer chez nous? Seigneur, viens. Ne vous inquiétez de rien. Ah, ça c'est une bonne parole. Mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières, par des supplications. On est d'accord? Avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence. Le verset Sommer, elle dit, tout ce que l'on peut concevoir gardera vos cœurs et vos pensées dans la protection du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un dernier verset dans le psaume 57, verset 3. Je crierai au Dieu très haut, à Dieu qui mène tout à bien pour moi. Dieu qui mène tout à bien pour chacun d'entre vous. Bien-aimés, c'est tout simplement le calme au milieu des ennemis, le calme au milieu de la tempête, lorsque nous implorons Dieu lorsque nous crions à Dieu. Amen. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Ta parole est la vérité. Seigneur, ta parole est là pour nous fortifier, pour nous consoler, pour nous faire aller de l'avant. Seigneur, afin que notre foi grandisse, mon Dieu, que nous puissions nous confier en toi. Seigneur, parfois, c'est vrai, nous ne comprenons pas certaines choses, et nous voyons des portes qui se ferment. Seigneur, parfois, nous prenons notre propre volonté pour ta volonté. Mais Seigneur, c'est ta volonté que nous voulons faire. Seigneur, nous voulons te suivre avec ardeur, te suivre avec amour, te suivre avec zèle. Seigneur, mon Dieu, je te réclame la bénédiction sur cette église de Toulouse-Ouest. Seigneur, fais que cette église puisse grandir. Seigneur, que ces âmes qui viennent réunion après réunion puissent être touchées par ta parole. Que cette parole puisse entrer dans une terre grasse, dans une terre qui porte du fruit à la gloire de ton nom. Cette semence, Seigneur, porte de nos mots fruits. Seigneur, que nous voyons des âmes venir à toi, se donner à toi dans de véritables conversions. Nous voulons voir des guérisons, nous voulons voir des baptêmes du Saint-Esprit, nous voulons voir des dons spirituels et nous voulons voir du renouveau. Seigneur, que nous soyons remplis d'amour les uns envers les autres, que nous soyons remplis de compassion, de respect les uns envers les autres. Seigneur, mon Dieu, qu'il n'y ait pas d'amertume, Seigneur, qu'il n'y ait pas de rancune en nous, Seigneur. Mais Seigneur, que s'il y a un différent, nous allions trouver notre frère et notre sœur et que nous sachions, Seigneur, lui demander pardon dans l'amour, Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te dis encore merci, Seigneur, et que seul ton nom soit glorifié, Père. Amen.